تطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط طيب على حياة الفرحة طقطقتيني طقطمصيتيني زماني لغايب على حياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine culturel, littéraire et musical pour sûr, et totalement nouvelle formule. Rock & Page, c'est désormais un numéro par semaine et puis trois nouvelles chroniques par mois, en plus du concept, un livre, une playlist. Je vous propose donc de retrouver respectivement une fois par mois le mot d'un mot, sorte d'ovni sonore non identifié pour vous délecter autour d'un mot. Et puis, à la frontière des genres, une chronique spéciale polar et science-fiction pour les amateurs de sensations fortes, chronique menée d'une main de fer par Bibio Manu, et enfin une chronique ciné signée elle, Catherine Rochette. Cette semaine, c'est avec Bibio Manu et à la frontière des genres que nous avons rendez-vous avec, en prime, une interview, celle de Michel Barrière, auteur de polar culinaire, je crois. Bibio Manu tâchera de la faire passer à table. Papa, si tu m'écoutes, des bisous. Mais avant de retrouver Bibio Manu et ses sueurs froides, laissez-moi vous causer tout près dans les oreilles d'un roman signé Claudie Gallet et sorti chez Actes Sud en avril dernier, dont le titre est « Détail d'Opalka » et qui m'a, par bien des aspects, scotché à mon fauteuil. Moi, ce texte-là de Claudie Gallet, je vous le dirai bien comme ça en fait. C'était Leïla avec Boudica. Pourquoi avoir choisi ce titre pour évoquer en votre compagnie Détail d'Opalka de Claudie Gallet, sorti en avril dernier aux éditions Actes Sud? Eh bien tout simplement car il évoque pour moi, tout aussi fort que le texte, l'obsession. Entendez par là l'obsession avec un grand O. car tout est là, je crois. Claudie Gallet, pour mémoire ou info, est l'auteur de l'immense Les Déferlantes. Elle est aussi l'auteur de L'Office des Vivants, ou encore Seule Venise, ou encore Dans l'Or du Temps, oui. Autant de romans que je ne peux que trop vous recommander de lire, vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, pour le choix. Après, il faut les rouvrir. Et du coup, moi qui en plus ai eu la chance juste folle de la rencontrer en grand, cette dame-là, je peux vous dire que quand je vois qu'un nouveau roman sort, je me jette dessus. Et quand j'ai ouvert Détails d'Opalka, je le confesse ici, j'ai d'abord été déroutée. Déroutée par une sorte de sensation, une sorte de constat. Claudie Gallet ne s'apprêtait cette fois-là pas à m'embarquer dans une histoire. Elle ne s'apprêtait pas à me faire frôler des personnages de femmes, d'hommes un peu perdus, violemment écorchés, éperdument vivants. Elle ne s'apprêtait plus à me faire visiter Venise ou la Hague, ni même l'enfance. Je la trouvais presque elle-même, déroutée à son tour, funambule sur un fil tendu, presque coupant, un fil qui séparerait la fiction de la non-fiction. Elle me mettait d'entrée de jeu, face à elle, la femme fascinée par le travail du peintre Roman Opalka. Née en France de parents polonais en 1935. Or, il se trouve que le travail de ce peintre-là, son œuvre intégrale, fut juste une folle, folle idée totalement obsessionnelle, à savoir matérialiser le temps. L'idée est née dans la tête de cet homme alors qu'il était un jeune homme et qu'il attendait son amoureuse et que dans cette attente, elle avait du retard, toujours un peu inquiétante, il s'est mis à écrire les chiffres, entendez 1, 2, 3, 4, à la suite là, comme ça, sur un carnet. Et c'est de là qu'il décida que sa vie entière serait consacrée à cela. Il formalisa son idée, la cadra par un système très clair et assez rigide, assez immuable, et il débuta. Rendez-vous compte, un peintre, car il est peintre de formation, il a suivi un cursus aux Beaux-Arts, je veux dire, blabla, Opalka était déjà un artiste quand il a eu cette idée-là, mettant sa vie entière à ce service-là. Les contraintes qu'il se fixa sont les suivantes. Peindre les chiffres en blanc de titane sur fond noir. Ajouter 1% de blanc dans ce fond noir à chaque toile. Pour finir, à ce qui est de l'ordre de l'invisible, à savoir blanc sur blanc. Chaque journée de travail s'accompagne d'une photo, toujours la même, sans la moindre expression sur le visage, et d'un enregistrement sonore, car tout en peignant, il compte, à voix haute. Les toiles sont alors recouvertes de chiffres, et toutes ces toiles ne représenteront que cette suite, accompagnée de ces autoportraits photographiques, qui eux aussi, et tout autant, racontent le passage du temps. À un détail, hein, mais Opalka, enfant, était laissé seul toute la journée. Ses parents, d'une pauvreté extrême, cherchaient tous les deux du travail, lui laissant pour toute consigne « tu ne touches à rien ». Il passait ses journées entières à regarder la pendule. Plus tard, Opalka et les siens furent enfermés dans un camp de concentration nazi.
Je compte, j'écris de manière continue, de 1 à l'infini, sur des toiles de même dimension. Les chiffres sont toujours peints à la peinture blanche, avec un pinceau sur des fonds unis, partant du noir, devenant à chaque toile de plus en plus clair, se dirigeant vers les blancs, vers l'invisibilité absolue qui durera, si elle est atteinte, jusqu'à la fin de ma vie. Chaque journée de travail, je prends un cliché de mon visage devant la toile. Je note les derniers nombres correspondant au moment de cette photographie.
Je suis un artiste d'origine polonaise, né en France. J'ai passé la plupart de ma vie en Pologne. Et comme tous les jeunes peintres, j'essayais de trouver ma voie. J'étais très attaché à une idée de visualiser le temps. Aujourd'hui, je suis devant un très important passage. C'est le 4e million. Et c'est un événement dans ma vie.
Vous venez d'entendre un très court extrait d'un reportage consacré au peintre Roman Opalka. Vous venez même de l'entendre énoncer les contraintes qu'il s'est fixées pour son œuvre. Opalka, qui donc, obsédé par le temps, obsède lui-même Claudie Gallet. Claudie Gallet qui a poussé l'obsession pour sa part à en faire un roman, un texte de cette obsession qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'intitule « Détails d'Opalka ». car chacune de ses toiles s'intitule « Détail » et est accompagnée d'un numéro. Et lui s'appelle « Roman », rien que cela. Et elle, Claudie Gallet, n'aura de cesse tout au long de ce texte-là de mettre en parallèle la quête du peintre et la sienne autour de l'écriture. Et je peux vous dire une chose, c'est que si j'ai été déroutée en ouvrant ce roman-là, car je ne m'attendais absolument pas à cela de la part de cet auteur que j'affectionne tout particulièrement, eh bien ce n'est pas dans le même état que je l'ai refermé son bouquin. Je ne l'ai pas lâché, c'est pas compliqué. Une gageure en soi. Parler durant 215 pages d'un peintre obsessionnel totalement marginal dans sa démarche déraisonnable, un peintre dont je n'avais, excusez mon manque de connaissances, absolument jamais entendu parler. Un pari tenu, une fascination par ce prisme-là, cette nudité aussi, voire celle qui suscite mon admiration, admirative à son tour, l'avoir cherché en somme à éclairer sa propre démarche à elle autour de l'écriture par le prisme du génial Opalka. Sidérant et efficace. Alors, si l'aventure vous tente, le roman s'intitule Détail d'Opalka et il est signé Claudie Gallet. Et c'est Actes Sud qui régale. Mais je vous le dis, je m'arrangerai pour l'inviter au micro de Rock and Page le plus vite possible, Madame Claudie Gallet, car j'ai eu un léger pansement tout de même en refermant le livre. Une sorte de question brûlante. Ne venait-elle pas de me mettre face à un grand doute qui la sert trop fort au sujet de l'écriture et du processus de création ? Le sien, en tout cas. Affaire à suivre. Chapelier fou que vous pourrez aller écouter à la Paloma à Nîmes d'ailleurs, le 19 novembre prochain, c'est dit. Bon, et maintenant, sortez vos colts, vos couteaux et vos fourchettes, c'est le moment pour nous de retrouver Bibliomanu et sa chronique à la frontière des genres.
Bonjour à tous, l'idée pour nos rendez-vous réguliers dans Rock'n'Page, c'est donc de parler des héros récurrents dans les polars. de ces personnages de fiction auxquels on s'attache et qu'on a parfois du plaisir à retrouver, presque tout le temps, même pour ce qu'ils sont, leur environnement privé ou professionnel, que pour les enquêtes qu'ils mènent. Des héros nombreux, qui varient par leur comportement, par leur réaction, leur motivation. Ils peuvent être des policiers, des détectives privés, des croque-morts, et oui, j'en compte au moins un, des tueurs, voleurs, cambrioleurs, bourreaux et bien d'autres choses encore. Et ça aussi, ça peut être important. Ils varient par l'époque dans laquelle ils évoluent. Seulement pour commencer, je vais faire un petit écart sur ces principes de base en n'évoquant pas un héros récurrent, même si l'auteur en a déjà un à son actif, mais une famille récurrente, les Savoisy. L'auteur de ces romans policiers, c'est Michèle Barrière. Elle est historienne de l'alimentation et en 2004, elle a donc commencé d'écrire une série de polars historico-gastronomiques, excusez du peu, où elle visite l'histoire culinaire à travers les siècles, du Moyen-Âge aux années folles, pour le moment en tout cas, en mettant en scène la dynastie Savoisy avec, en fin d'ouvrage, ce qu'elle fait toujours, elle nous met des recettes d'époque à faire soi-même à la maison. Voilà, il y a donc 8 tomes parus à ce jour pour la dynastie Savoisy, Souper mortel aux étuves, Meurtre à la pomme d'or, qui se passe d'ailleurs à Montpellier, Nature morte au Vatican, Meurtre au potager du roi, Les soupers assassins du régent, Meurtre au café de l'arbre sec, Meurtre au Ritz, et enfin le dernier paru le 20 août dernier, L'assassin de la Nationale 7. Voilà. Et puis il y a aussi une autre série qu'elle a écrite avec un héros récurrent, Quentin Duménil, qui est maître d'hôtel de François Ier, dont le premier tome est Le sang de l'hermine, suivi de Sang et d'or, et enfin Le prisonnier de l'Alcazar, qui est sorti en cette année 2014. Mais voilà, pour évoquer la dynastie Savoisy, en particulier le dernier ouvrage, L'assassin de la Nationale 7, qui raconte l'histoire d'un tueur descendant la Nationale 7 en semant des morts sur son passage, je vous propose d'en parler directement avec Michèle Barrière elle-même. Michèle Barrière, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation pour Rock'n'Page dans ce petit moment à la frontière des genres. Alors donc, le dernier tome de la dynastie Savoisy est paru il y a peu, à la fin du mois d'août, L'assassin de la Nationale 7. Par rapport à toute la série, l'ensemble de la série, lorsque vous avez écrit le premier tome, tout à fait, de la dynastie Savoisy, est-ce que vous saviez déjà que vous vous engagez sur une série au long cours?
Alors, oui, j'avais pratiquement tous les titres, mais par contre, j'étais absolument persuadée que je ne toucherais pas au XXe siècle. Et vous voyez, ça y est, j'y suis, oui. Je suis en 1929, et je compte bien continuer. Donc, voilà, pour moi, j'allais m'arrêter avec l'ouverture du Ritz. Eh ben non, je continue.
Ah, très bien, vous répondez à ma dernière question, à savoir si vous alliez continuer encore au-delà de 1929, c'est le cas alors?
Ah ben oui, à partir du moment où j'ai commencé à piocher justement dans cette cuisine du XXe siècle et aussi sur l'histoire du XXe, on ne peut pas s'arrêter. Donc il y aura effectivement 1933, moment politique éminemment important dans l'histoire mondiale avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et puis aussi, alors là par contre, c'est beaucoup plus réjouissant sur un plan culinaire, les 2x3 étoiles de la mère Brasier à Lyon, qui donc a été la première femme étoilée en France, et où il faudra attendre ensuite Anne-Sophie Pic qui a, je sais pas, 5-6 ans ou une dizaine d'années. Donc vous voyez, il y a à la fois le côté sombre de l'Europe en 1933 et puis un côté au contraire complètement solaire avec notamment la cuisine lyonnaise. Donc je compte bien m'arrêter un long moment autour de ces tables-là.
Très bien, vous allez faire des ravis. Alors vous parliez de côté sombre, vous êtes passé avec Meurtre au Ritz de la cuisine des palais, des palaces, dans un contexte historique et politique assez grave. Vous avez sauté la Première Guerre mondiale pour arriver dans les années folles. Pourquoi ce choix?
Alors, la cuisine, alors, la Belle Époque, ça aurait pu être, la suite avant 14, ça aurait pu être absolument passionnant. Mais j'avais déjà dit pas mal de choses justement sur la cuisine. La cuisine des tranchées, ça pourrait se faire. Hein. Parce que bon, là, il y a des choses, bon là encore, absolument abominables, mais aussi des tas d'événements et des tas de. Par exemple, le fait que les soldats recevaient des colis de leur famille, ça a fait connaître des produits que d'autres ne connaissaient pas. Par exemple, bon, le camembert normand mangé par un Perrier Courtin ou un petit gars des Cévennes. Voilà. Donc, bizarrement, les tranchées ont permis une diffusion d'un certain nombre de produits qui seraient peut-être restés un petit peu plus inconnus. Oui. Donc ça aurait pu être intéressant, mais moi, je plongeais dans l'univers de la guerre, je m'en sentais pas.
D'accord. Alors, dans l'Assassin de la Nationale 7, on retrouve également l'expression du nationalisme qui était déjà présent dans Meurtre au Ritz, notamment le nationalisme culinaire. Est-ce que cette bonne cuisine française, ce rapport à la bonne cuisine française qui dénigre toute influence étrangère, est-ce que c'est un phénomène qui va durer dans le temps, ça ?
Eh oui, parce qu'on va tout de même être nourri de cette cuisine-là, oui, qui se veut une cuisine de justement du terroir, de bon sens. Elle va durer jusqu'à la nouvelle cuisine, hein, jusqu'aux années 70. Hein.
Ah oui.
Donc avec, bah oui. Où là, les influences étrangères vont pouvoir... alors, il y a d'une part, effectivement, l'influence de la nouvelle cuisine, puis aussi l'arrivée de bon nombre de restaurants étrangers qui vont un petit peu changer la donne. Mais cette bonne cuisine bourgeoise, oui, elle va être absolument terrifiante pendant la plus grande partie du XXe siècle. Hein. Et la nouvelle cuisine, justement, va s'insurger contre... contre des dogmes un petit peu lourds, dirons-nous.
D'accord. Là, dans cet ouvrage, vous abordez aussi l'aspect à travers le personnage de Kurnonski, qui est un personnage flamboyant, assez intrigant, et voilà. Et vous vous attachez à la cuisine régionale en particulier. Est-ce que les années folles ont contribué à l'essor de cette cuisine-là ?
Ah ben complètement, parce que justement, Kurnonski se disait le chantre des gastronomades, c'est-à-dire et chantait aussi l'alliance entre le tourisme et la gastronomie, et il a écrit avec Rouff un monument en voyageant dans toute la France, et ça s'appelle le trésor gastronomique de la France, et où il recense justement toutes les spécialités et tous les endroits où on peut manger ces spécialités régionales. Alors c'est vrai que ça correspond à deux choses, ça correspond à l'ambiance politique, parce que Kurnonski, c'est un être, il a des côtés super attachants, puis il a des côtés absolument détestables, parce que justement, c'était un ami de Léon Daudet, nationaliste parmi les nationalistes, hein, donc il a ces côtés-là, mais en même temps, c'était un bon vivant, et c'est vrai que c'était pas un méchant, hein, c'était quelqu'un de je crois, d'abord qui croyait en ce qu'il faisait, et puis de gentil. Et puis aussi le développement de l'automobile, hein, puisque oui. Là on est vraiment passé dans une autre ère où la voiture se démocratise et où, je vais pas dire tout le monde, hein, on en est loin, mais beaucoup de gens prennent la route et puis justement font du tourisme et s'arrêtent dans ces tables qui vont devenir des grandes tables comme Fernand Point à Vienne, André Pic à Valence, enfin des adresses mythiques, hein, et qui ont marqué des années 30 aux années 70.
D'accord. Alors ces tables-là, dans votre roman, elles sont l'objet de meurtres incroyables, si on peut dire.
Hein? Oui, je me suis un petit peu amusée, oui.
Est-ce que c'est pas difficile au bout d'un moment de quand on écrit que vous êtes au 8e tome de concocter autant de petits meurtres?
Ah ouais, si, des fois j'ai l'imagination qui flanche côté meurtre, donc je demande des conseils.
Mais vous vous régalez quand même, non? On le sent.
Oui, ça va.
Et
oui.
Vous jouez pas mal aussi avec les codes du polar, en particulier dans ce roman-là. Vous rapportez les propos d'Albert Pigasse. Alors je ne sais pas si c'est vous qui les avez inventés ou s'il a vraiment dit ces mots-là. Vous savez,
ça.
Un bon roman policier, c'est celui qu'on lit de la première à la dernière ligne. Le roman doit être une distraction, pas un poison. Est-ce que c'est cette mise en abîme que vous mettez en place dans l'ouvrage, c'est clin d'œil ou hommage?
Les deux, puisque bon, Pigasse est le créateur des éditions du Masque, donc la première collection de polar en France au début des années 20, c'est le premier à avoir publié une traduction d'Agatha Christie, donc ça c'est tout de même un personnage éminemment respectable dans le monde du polar, et moi je me suis amusée à l'enrôler dans le roman et à lui faire jouer son propre rôle, et c'est effectivement, oui, c'est tout ce qu'il a pu dire, je l'ai dûment vérifié.
D'accord, très bien. Merci Michel Barrière. J'ai une dernière petite question parce qu'on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Je voudrais vous demander quel livre, en dehors des vôtres, vous conseilleriez à nos auditrices ou auditeurs pour à la frontière des genres.
Là, aujourd'hui, précisément, là, c'est le un récent ou...
Oh, comme bon vous semble.
Alors, par exemple, il y a le dernier livre de Tan Van Tranhout, Les corbeaux de la mi-automne. C'est un polar historique, mais qui se passe au Vietnam au XVIIe siècle.
Oui.
Et je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, Les corbeaux de la mi-automne, Tan Van Tranhout.
Parfait, merci Michel Barrière. On se retrouve bientôt pour le prochain livre, avec plaisir en tout cas. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était À la frontière des genres de Bibiomanu. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno à la technique. Retrouvez tous les numéros de l'émission sur le blog au http://thisisrock'n'page.blogspot.com. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous laisse avec Tom York, les enfants.